Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs et chers amis, c'est une grande joie, en fait, de pouvoir vous parler aujourd'hui à Sol et Civilisation, puisque, effectivement, il y a maintenant 18 ans que Raymond Lacombe m'avait demandé de faire partie des 40 parrains de cette association. Donc, ça veut dire qu'elle a maintenant 18 ans, donc les parrains de l'association ont bien travaillé. Et donc, mon œuvre maintenant est terminée, hein, puisque l'association devient majeure. Je vais donc essayer de commencer cette journée, cette partie de cadrage, avec une question peut-être un peu brutale, et dont la réponse est dans le mot crise qui a été prononcé par le président Le Dru tout à l'heure. Et j'essaierai en particulier de vous montrer que, finalement, la principale crise, c'est peut-être la crise de la pensée, c'est-à-dire d'une certaine incapacité à comprendre la réalité du monde et la façon dont il évolue. Alors, pour comprendre donc ce phénomène, je vous propose donc d'appréhender le monde dans ses différentes échelles géographiques. C'est ce qui me paraît essentiel pour essayer d'aborder et d'assimiler la complexité des évolutions. Donc, trois échelles géographiques. D'abord, donc, le contexte mondial. Bon, j'ai mis de l'hexagone, mais c'est aussi celui de l'Europe, bien entendu. Puis ensuite, nous examinerons les principales dynamiques territoriales françaises. Et enfin, nous terminerons par un regard plus approfondi sur les enjeux pour la ruralité française. D'abord, donc, concernant le contexte mondial, il se résume en fait à quatre processus. Enfin, le processus dit de la transition démographique avec toutes ses diversités, le processus d'urbanisation, le processus de migration et le processus lié aux différences nord-sud. Je vais simplement par une planche éclairer chacun de ces processus. Mon premier processus, donc celui qui fait que grâce au progrès contre la mortalité, et non pas, comme on le dit souvent, à cause de la croissance de la natalité, il n'y a aucune croissance de la natalité dans aucun pays au monde, mais grâce au recul de la mortalité, eh bien, la population dans le monde évolue. Alors, on peut présenter ce genre de graphique où nous voyons des projections, et selon les hypothèses faites, eh bien, nous pourrions arriver ou à 8 milliards, ou à 9 milliards, ou à 10 milliards dans les prochaines décennies. Or, ce genre de graphique a un sens extrêmement limité, parce qu'il additionne des évolutions démographiques extrêmement diversifiées selon les territoires, et en réalité, cette évolution planétaire est la résultante de territoires dont la population augmente fortement, de territoires dont la population connaît une légère croissance, de territoires qui stagnent, et même de territoires, comme c'est le cas d'un certain nombre de pays européens, dont la population diminue. D'où la nécessité de regarder les évolutions locales et non pas d'en rester à une approche planétaire où on mélange des réalités démographiques très différenciées selon les territoires et selon les pays. Deuxième point, donc, le processus d'urbanisation. Là aussi, on considère souvent qu'il y aurait une corrélation inévitable entre la croissance de l'urbanisation et le développement économique. Or, lorsque je regarde les statistiques internationales telles qu'elles nous sont livrées, eh bien, je vois par exemple que l'Amérique latine est considérée comme ayant un taux d'urbanisation supérieur à celui de l'Europe et à peine inférieur à celui de l'Amérique du Nord. Donc, ceci prouve bien qu'il n'y a pas corrélation entre l'urbanisation et le développement, puisqu'il y a des choix politiques qui ont conduit à des modes d'urbanisation différenciés, ce qui est mis en évidence là, à travers les principales régions du monde, pourrait être attesté aussi en considérant des niveaux régionaux ou des niveaux infranationaux. Troisième élément, et là je vais peut-être décevoir ceux qui sont optimistes dans ma formulation, mais elle se veut brutale pour secouer les neurones, si vous me permettez. Les inégalités nord-sud sont quand même relativement durables, même s'il faut tout faire pour les supprimer. Alors pourquoi ? Lorsque vous regardez cette carte des taux de mortalité infantile dans le monde, vous voyez donc les pays les plus sombres sont les pays où la mortalité infantile est la plus élevée. Et tout de suite, vous rendez compte d'une corrélation assez bonne, malheureusement assez bonne, entre les pays où la mortalité infantile est le plus élevée et les pays qui ont connu ou qui sont encore en état de conflit civil. Donc, en fait, la mauvaise situation sanitaire dans beaucoup de pays, elle est premièrement la conséquence soit de conflits civils en cours, voire la Somalie, voire l'Afghanistan, soit de l'héritage de conflits civils, voire le Sierra Leone, voire le Libéria, voire la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas que nos amis ivoiriens parlent de la guerre à propos du conflit civil qui s'est déroulé ces dernières années, voire la guerre civile en Mozambique, en Angola, etc. Donc, premier élément, eh bien, c'est vrai que l'héritage de ces conflits civils va exercer des effets un certain temps. À cela s'ajoutent d'autres éléments qui risquent d'être durables, comme les inégalités hommes-femmes, parce que nous avons là aussi une certaine corrélation entre les inégalités hommes-femmes et les taux de mortalité maternelle. J'ajouterai la question des choix budgétaires en faveur des canons plutôt qu'en faveur du beurre, et ensuite, bien sûr, les problèmes de gouvernance. Donc, bien sûr, il faut essayer de résoudre cette question, mais il faut quand même être conscient que cela demande des changements structurels fondamentaux. Quatrième point, donc, les questions migratoires. Je les illustre rapidement, simplement, à travers cette cartographie. Donc, bien entendu, nous sommes dans des logiques de nouvelles migratoires facilitées par la globalisation, la mondialisation et l'internationalisation. Et donc, ces nouvelles logiques migratoires qui se surajoutent aux facteurs migratoires classiques font que les mouvements migratoires vont continuer de se développer dans le monde compte tenu des éléments explicatifs de ces phénomènes migratoires, sachant qu'il convient surtout toujours de se rappeler qu'il est absurde de parler de l'immigration sans analyser les migrations, L'émigration. Puisqu'il n'y a jamais immigration, c'est-à-dire arrivée d'une personne dans un pays, s'il n'y a pas une raison qui l'a poussé à partir de son territoire. Donc voilà pour le contexte mondial avec ce rapide résumé. J'en viens maintenant aux principales dynamiques françaises et je vais m'apesantir surtout sur quatre éléments. Premier élément, eh bien, il faut constater une tentation de nos contemporains et une attirance de nos contemporains vers les littoraux, ce que j'ai appelé la liturbanisation, c'est-à-dire l'urbanisation du littoral. Bon, ce phénomène, pour vous l'illustrer, je vous ai apporté donc cette carte, et vous voyez donc en rouge des régions qui se sont caractérisées par des constructions de logements relativement importantes. Et vous voyez que ces zones en rouge, eh bien, correspondent justement à des régions littorales. Donc, nous sommes bien dans cette logique de liturbanisation, qui, d'ailleurs, était celle qui avait été crainte par le fameux scénario de l'inacceptable que le Sésame avait rédigé au début des années 1970. Deuxième élément, l'héliotropisme positif. Là, nous avons un point important, parce que vous avez entendu forcément parler de la formule d'héliotropisme, c'est-à-dire de rapport de nos contemporains avec le soleil, mais aujourd'hui, l'héliotropisme, il est positif, c'est-à-dire c'est la tendance à vouloir se rapprocher du soleil. J'insiste sur l'adjectif et j'expliquerai rapidement sa raison. Cet héliotropisme positif, on peut le visualiser à travers cette carte de France. Donc vous voyez en vert des territoires qui ont perdu des habitants en raison des évolutions migratoires, et vous voyez donc dans des couleurs qui varient, j'irais, entre le rouge et un marron très clair, des territoires qui ont gagné des habitants en raison, justement, d'apports migratoires. Donc, manifestement, on a en quelque sorte un peu une fracture nord-sud, avec une tendance donc de la moitié nord de la France, en moyenne,
à perdre des habitants en raison des mouvements migratoires et dans les parties davantage méridionales, une attraction migratoire qui est donc le résultat des tendances actuelles. Je dis bien qui est le résultat des tendances actuelles parce que si je parle d'héliotropisme positif, c'est parce que, bien entendu, si les changements climatiques prennent de l'importance, il se pourrait que nos contemporains qui sont allés habiter dans la partie méridionale de la France considèrent que les canicules répétées, ça devient insupportable, et que le clair de lune à Maubeuge, c'est peut-être pas si mal que ça. Et donc, à ce moment-là, on aurait un héliotropisme négatif, c'est-à-dire des gens qui se détourneraient de l'abus du soleil. Troisième élément, les différences accrues de composition par âge. Je dirais que là, nous avons, en quelque sorte, un graphique qui plaide en même temps pour la décentralisation et plus encore pour une meilleure péréquation entre les territoires. Pour illustrer donc ce questionnement, je vous propose de regarder ces deux pyramides des âges. Donc vous avez à gauche la pyramide des âges du Val-d'Oise et à droite la pyramide des âges de la Creuse. Donc à droite, sur la pyramide des âges de la Creuse, eh bien vous voyez d'abord qu'il y a plus de personnes âgées que de personnes jeunes, et vous voyez aussi que parmi la population d'âge actif, hein, donc les 20-64 ans, eh bien j'ai beaucoup plus d'actifs âgés que d'actifs jeunes. Alors que la pyramide des âges du Val-d'Oise est complètement différente, avec beaucoup moins de personnes âgées que de personnes jeunes, et donc des différenciations de formes de pyramides qui sont tout à fait considérables. C'est ce qui m'avait d'ailleurs, ces évolutions m'avaient conduit à m'interroger il y a déjà pas mal d'années sur ces problèmes de péréquation, puisque l'une des raisons du faible nombre de personnes âgées dans le Val-d'Oise, c'est aussi le fait qu'un certain nombre de personnes arrivant à la retraite vont passer leur retraite en dehors de l'Île-de-France. Et je me souviens d'ailleurs d'une réunion de Sol et Civilisation où j'avais dit à Jean-Paul Huchon, bah, vous devriez verser une prime à chaque retraité qui quitte l'Île-de-France, parce que comme ça, il ne pèsera plus sur les budgets publics de l'Île-de-France quand il vient demander de l'aide à domicile, du portage de repas, etc. Voilà. Donc, des différences fondamentales dans les évolutions territoriales. Enfin, j'ajoute, et je serai court également, puisque vous avez donc le dossier qui se trouve dans la pochette qui vous avait été remise à l'entrée, pour un peu illustrer ces différences de composantes des évolutions démographiques. Donc, j'ai mis en évidence que, selon les territoires, nous avons au moins 12 types d'évolutions démographiques. Donc, vous voyez, une extrêmement grande diversité. Et donc, il ne faut surtout pas voir la France comme un pays qui aurait des dynamiques territoriales semblables. Bien au contraire, vous voyez qu'on a presque un patchwork, là, compte tenu des facteurs explicatifs et des facteurs qui se combinent sur chaque territoire pour engendrer tel ou tel résultat. Alors, cette connaissance à la fois du contexte mondial et des principales dynamiques françaises nous invite donc à réfléchir aux enjeux pour la ruralité française, et je voudrais d'abord rappeler une évidence. Cette évidence, c'est que le territoire français est une richesse objective. Il faut toujours rappeler que la France a le troisième territoire de la Grande Europe, après la Russie et l'Ukraine, que la France a le territoire le plus vaste de toute l'Union européenne, et donc c'est un atout. Et ce serait une erreur de considérer l'espace français comme on pouvait considérer le tiers-État sous l'Ancien Régime, et le délaisser, alors que c'est une richesse fondamentale, qui, par sa diversité en plus, offre un potentiel que la nature nous a donné, et nous verrons aussi, bien sûr, que nos prédécesseurs et nos ancêtres ont aménagé et confectionné pour qu'ils puissent mieux profiter aux populations. Donc c'est à la fois une richesse objective par son étendue, mais aussi par la diversité de la nature des terroirs, qui est non seulement une diversité générale, mais parfois une diversité locale. Par exemple, les Alpes du Nord ont une configuration géographique et des atouts naturels qui n'ont rien à voir avec ceux des Alpes du Sud. Alors, face à ce refus d'être un tiers espace, eh bien, nous avons un certain nombre de difficultés de compréhension, et c'est là où j'en arrive à ma crise de la pensée que je vais illustrer par 4 exemples. Premier exemple, eh bien, c'est cette manie que l'on trouve malheureusement dans la plupart des livres, à commencer par les livres scolaires, qui consiste à utiliser l'expression d'exode rural. Le mot exode, normalement, concerne des populations obligées de fuir un territoire sous la contrainte, et notamment pour sauver leur vie, notamment en cas de guerre. Or, lorsqu'on utilise, et malheureusement on le fait trop souvent, cette expression d'exode rural, eh bien, on donne l'impression qu'il y aurait une fatalité, hein, comme si la diminution de l'emploi agricole signifierait forcément que les emplois créés ne pourraient être créés que dans les villes, et comme s'il n'y avait pas en Europe même un certain nombre de terroirs qui ont su créer des activités dans le monde rural. Donc c'est le premier point sur lequel je voudrais insister. Nous avons une définition conceptuelle qui suppose d'utiliser le terme d'émigration rurale, c'est-à-dire de refuser une fatalité qui n'existe pas, mais que l'on met dans nos têtes. Deuxième élément, nous avons eu ces dernières années le déploiement d'une nouvelle théorie, qui est la théorie, enfin, nouvelle théorie, d'une théorie renouvelée de théorie ancienne, et que l'on appelle la théorie de l'économie résidentielle. Autrement dit, pour faire le développement du territoire, qu'est-ce que nous dit cette théorie ? Il n'y a pas besoin de faire de développement endogène, ça n'existe pas. Ce qu'il faut être capable, c'est de capter les ressources des autres territoires. Donc, faire venir des retraités qui toucheront des retraites, faire venir des pauvres qui toucheront le RSA, faire venir éventuellement des gens plus riches qui apporteront davantage de possibilités de consommation, etc. Et finalement, la vie économique du territoire, c'est la conséquence de ce qu'il a pu capter de l'extérieur, ce qu'il a pu capter comme emploi public, ce qu'il a pu capter comme retraité, ce qu'il a pu capter comme prestation sociale. Et donc l'important, notamment, ce sont les résidents non recensés, donc les résidences secondaires, les touristes, etc. Et donc vous voyez qu'il y a dans cette théorie l'idée que c'est pas la peine de se fatiguer à essayer de faire du développement propre à un territoire. Il suffit d'être assez habile pour capter ce qui vient d'ailleurs. Or, cette théorie, elle pose deux problèmes au moins. D'abord, un problème conceptuel. C'est-à-dire, selon cette théorie, le tourisme est un captage de revenus qui sont procurés sur d'autres territoires. Ceci me paraît une erreur fondamentale, parce que le tourisme sur un territoire peut être plus ou moins développé selon la capacité de ce territoire à mettre en œuvre ses atouts touristiques. Deuxième élément, c'est que cette théorie n'est absolument pas attestée par les faits. J'ai conduit donc un certain nombre d'études sur plusieurs territoires français, et notamment sur des territoires français qui bénéficiaient de l'économie résidentielle, et je me suis rendu compte qu'en réalité, il n'existe pas de territoire qui corresponde à cette théorie. Oui, il y a des territoires qui bénéficient partiellement de l'économie résidentielle, mais dont le développement repose sur beaucoup d'autres éléments, notamment endogènes, que l'économie résidentielle. Troisième exemple, elle nous vient tout simplement du prix Nobel 2008 de l'économie Paul Krugman. Paul Krugman a une analyse très simple qui a consisté à reformuler la théorie centre-périphérie. Eh bien, c'est simple, voilà. Il y a des centres et des périphéries. Les périphéries sont dépendantes du centre et la localisation des activités économiques va fatalement vers le centre. Donc, les périphéries, donc la ruralité, elle n'a plus qu'à passer par perte son développement. Ce prix Nobel d'économie, en réalité, il est démenti, je dirais, à la fois par l'analyse et par les faits. D'abord par l'analyse, parce que la notion de centre des périphéries ne peut plus être appliquée au territoire. Je veux dire par là, c'est que tout territoire qui est centre à un moment peut être périphérie d'un autre point de vue, et tout le territoire qui est périphérie peut être centre à un moment. Je donne un exemple. Toulouse est le territoire centre de la région Midi-Pyrénées. Mais en même temps, Toulouse est bien dépendante des décisions prises par EADS, décisions qui relèvent notamment des choix politiques qui ont été faits à Berlin et à Paris. Donc Toulouse, centre d'une région, et en même temps périphérie pour un certain nombre de décisions. Autre exemple, un territoire périphérique qui devient centre. Bien, nous avons en Bretagne un bel exemple avec le festival des Vieilles Charrues à Carré. Carré est une périphérie tout au long de l'année. Mais lorsque Carré organise son festival des Vieilles Charrues, où viennent plusieurs centaines de milliers de personnes, c'est un centre culturel à ce moment-là. Donc vous voyez que ce raisonnement, on peut l'appliquer à tous les territoires. En outre, je voudrais ajouter que là aussi, un certain nombre d'études que j'ai pu conduire mettent en évidence que cette théorie de Krugman est démentie par les faits, c'est-à-dire des territoires qui auraient dû se vider au regard de la théorie de Krugman conservent un dynamisme propre. Enfin, un quatrième exemple, et c'est l'un de mes principaux soucis également, ce sont les définitions actuelles en France entre la population urbaine et la population rurale. Nous avons en effet des définitions qui sont terriblement extensives, notamment par rapport aux pays étrangers. J'en donne un seul exemple. Si vous connaissez un bourg dans un département dit rural qui fait 2500 habitants, eh bien, les habitants de ce bourg se considèrent comme des ruraux. Eh bien, statistiquement, ils sont mis dans la population urbaine. Donc on a une définition beaucoup trop extensive à travers à la fois ce plancher de population urbaine et à travers la règle des 200 mètres, mais je n'entre pas dans les détails, qui conduit à des aberrations. Donc ça, c'est une vraie difficulté dans la mesure où on nous enseigne que la population urbaine est beaucoup plus importante que ce qu'elle est concrètement dans l'espace vécu des populations. Donc, je voudrais terminer en insistant sur la réalité, c'est que ce sont les hommes, en fait, qui font le territoire, qui font sa qualité de vie, leur attractivité, en l'aménageant, en le valorisant, en le faisant vivre, l'aménagement, la qualité de nos territoires actuels, qu'il s'agisse de la Bourgogne, qui est un territoire qui a été complètement aménagé par les hommes au Moyen-Âge, en le valorisant, qu'il s'agisse de projets comme ceux de la région de la Gueule, alors que son économie industrielle et artisanale avait disparu, en les faisant vivre, dans l'exemple de Carré que je disais tout à l'heure. Et donc, il reste à la ruralité une spécificité. Cette spécificité, c'est que la ruralité donc diffère de l'anonymat des villes, et cette différence en fait inévitablement, par nature, un espace où la solidarité peut s'exercer plus facilement. Autrement dit, dans un monde ouvert et complexe, on ne peut réussir sans solidarité collective au sein d'un territoire. Il me semble, donc en conclusion, que réussir le développement territorial, ça pourrait se résumer dans la formule suivante: savoir-faire du développement soi-même, donc savoir-faire du développement endogène, en valorisant les évolutions des facteurs exogènes, dans la mesure où tout territoire est bien dans un contexte, qui est le contexte actuel de la globalisation, de la mondialisation et de l'internationalisation. Je vous remercie de votre attention.